Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Emmanuel Macron est-il un bon ministre de l'économie ? Ouf ! Nous ne serons pas invités au prochain anniversaire d'Emmanuel Macron, sans quoi il aurait fallu s'arracher les cheveux pour trouver quelque chose à lui offrir. C'est que cet homme a déjà tout ce que l'on peut souhaiter avoir. Du style pour commencer. Ligne impeccable, costume sur mesure, même pas besoin de porter une ceinture. C'est ainsi, paraît-il, qu'on distingue les banquiers d'affaires, son premier métier. Du patrimoine ensuite, on ne finit pas associé gérant de la banque Rothschild sans en retirer quelques bénéfices. Une situation enfin, patron de Bercy bien avant d'atteindre ses 40 ans, il les aura en décembre 2017, sacrée carte de visite. Que manque-t-il à Emmanuel Macron ? Rien, pas même un destin. Le voilà promis aujourd'hui à un avenir présidentiel, pourquoi pas dès 2017. Son ascension est à son image irrésistible. On en finirait presque par oublier qu'Emmanuel Macron est aux commandes d'un ministère en charge de la politique économique de la France et donc qu'il est, à ce titre, redevable d'un bilan. Or certes, il n'occupe ce poste que depuis 20 mois, mais son impact sur l'action gouvernementale remonte au début du quinquennat. Alors Emmanuel Macron est-il un bon ministre de l'économie ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. François-Xavier Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter au service politique du Figaro. Vous y suivez le Parti Socialiste. Et vous venez de publier aux éditions de l'Archipel Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi. Pour discuter avec vous, Christophe Rameau, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Et puis notre troisième invité, c'est Thierry Fabre, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint du magazine Challenge, qui est un hebdomadaire. Vous y dirigez le service France. Le dernier numéro de Challenge, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, mais je crois que c'est le dernier, c'était la nouvelle pensée libérale en une, avec un certain nombre de penseurs libéraux et, disons, leur maître à tous, Emmanuel Macron, qu'on retrouve en photo sur la couverture donc du dernier magazine Challenge. Alors, avant d'évoquer peut-être le bilan de l'action du ministre de l'économie, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Nous sommes le 26 août 2014 dans la cour de l'Élysée.
Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Alors, je précise que c'est une séquence montée, c'est-à-dire que l'annonce de Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, à ce moment-là, fait qu'il y a d'autres ministres qui arrivent avant la présentation d'Emmanuel Macron. Il n'arrive qu'en 11e position. Ce qui est assez intéressant quand on voit les images, même si ça ne s'entend pas à la radio, c'est que Jean-Pierre Jouyet a un grand sourire au moment où, justement, il annonce la nomination d'Emmanuel Macron. François-Xavier Bourmeau, on a un peu l'impression que, pour le secrétaire général de l'Élysée, il y a une façon de dire « Ah, celle-là, vous ne vous y attendiez pas ». Et ce que vous nous racontez dans le livre que vous consacrez à Emmanuel Macron, c'est que lui non plus, finalement, ne s'y attend pas du tout. Ça ne fait même pas partie, d'ailleurs, de ses rêves. C'est pas quelque chose qu'il ambitionnait.
Non, non. Quand il est nommé Emmanuel Macron, il était parti pour faire autre chose. Il avait quitté l'Élysée depuis 2 mois déjà. Et il était parti pour monter une petite entreprise, une start-up. Il avait complètement coupé avec la politique. Il s'interdisait même de faire des commentaires ou de revenir sur son passage à l'Élysée. Et en fait, il arrive là sur un concours de circonstances à la faveur d'une crise politique assez forte dans le quinquennat de François Hollande. Et en fait, il se retrouve là vraiment par hasard.
Vous évoquez dans le livre un dialogue qu'il y a au moment où on réfléchit à savoir qui pour remplacer Arnaud Montebourg. Jean-Pierre Jouyet qui dit à François Hollande, si on veut quelqu'un qui connaisse bien l'économie, qui adhère à la politique de l'offre, qui ait la confiance des entreprises et qui incarne une nouvelle génération, je ne vois que Macron. Christophe Rameau, finalement, ça résume assez bien le portrait qui représente aujourd'hui le ministre de l'économie.
Oui, tout à fait. Il représente bien dans son parcours, y compris, je ne parle pas de sa personne, parce que ça serait totalement déplacé, mais du point de vue de son parcours, il rentre à la banque Rothschild en septembre 2008, au moment de l'éclatement de la plus grande crise économique liée à la finance libéralisée depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'il rentre à la banque Rothschild. Il fait ses 4 années, et puis bah il va porter auprès de Hollande le finalement ce qui est la ligne de Hollande d'ailleurs historiquement, hein, c'est-à-dire il parachève en quelque sorte ce qui a toujours été la ligne de Hollande, c'est-à-dire une politique sociale libérale qui de mon point de vue a totalement échoué, hein, c'est-à-dire que derrière les paillettes il y a l'échec de cette politique. On contrebalance peut-être l'échec abyssal de cette politique par les paillettes justement en ce moment, mais c'est vrai que son pour en rester à sa nomination, on évince l'aile gauche du Parti Socialiste du gouvernement. Montebourg, Hamon quitte le gouvernement à ce moment-là et c'est à ce moment-là que Macron prend le relais.
Est-ce que vous diriez, Thierry Fabre, que étant donné son parcours à Emmanuel Macron, il était légitime à être nommé à Bercy?
Il y a une légitimité et une clarification de la ligne de la politique économique de François Hollande. Il faut bien savoir que cette politique de l'offre, elle a été initiée par Emmanuel Macron lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Emmanuel Macron était le point d'entrée des grands chefs d'entreprise qui étaient souvent mécontents de certaines mesures de la première année du mandat de François Hollande. Emmanuel Macron, vous savez, sur la taxe à 75% sur les revenus supérieurs à 1 million d'euros, la grande mesure de campagne de François Hollande, il avait dit « cette mesure, c'est Cuba sans le soleil ». Donc, on voit bien, cette ligne sociale libérale, elle n'était pas évidente, puisque dans le discours de campagne électorale de François Hollande, on se demandait ce qui allait être choisi. Il y a eu une hésitation la première année, un petit peu de godille, et on a vu avec la poussée d'Emmanuel Macron que cette politique a été choisie. Et effectivement, qui mieux que lui, comme disait Jean-Pierre Jouyet, pour la mettre en œuvre. Et d'une certaine façon, il n'avait pas la légitimité politique puisqu'il n'est pas élu. Beaucoup disent, mais oui, mais que fait ce ministre qui n'est pas élu? Mais il avait une légitimité sur le plan des idées. Et effectivement, c'est sa politique qui a été ensuite mise en œuvre.
Ça veut dire, François-Xavier Bourmeau, que si lui a peut-être été surpris d'être nommé alors qu'il s'apprêtait à faire toute autre chose, en soi, ça n'était pas complètement une surprise non plus alors.
Non, Emmanuel Macron, c'est l'aboutissement logique du quinquennat de François Hollande, en fait, que le représentant symbolique de cette aile sociale libérale se retrouve ministre de l'économie. Tout menait à ça. Alors, il y a une nuance peut-être, c'est que Emmanuel Macron a pas pu aller au bout de toutes ses idées. Juste un exemple sur le rapport de Louis Gallois sur le crédit impôt compétitivité emploi, préconisait des allègements de charges pour les entreprises de 70 milliards d'euros. Un choc assez rude. Et au final, il a été de 40 milliards d'euros. Donc, Emmanuel Macron a pesé, mais il n'a jamais eu totalement gain de cause sur toute la ligne économique. Et on va le voir aussi après sur la loi Macron, où entre ses idées de départ et ce qu'il en arrive après le passage par le Parlement, c'est pas non plus totalement du macronisme économique pur et dur.
Christophe, dans Thierry Fabre,
oui, j'aborde tout à fait dans ce sens. Emmanuel Macron, il a une loi qui porte son nom, la loi Macron 1. Il l'avait annoncée comme la grande loi qui devait déverrouiller l'économie. Il avait un grand projet, notamment de déverrouiller toutes les professions réglementées, qui avaient fait l'objet d'un rapport assassin de l'inspection des finances, les notaires, pharmaciens, etc. Quand on fait le bilan de ce qu'il a fait, il a déverrouillé un secteur qui est le secteur des autocars, où effectivement, c'est intéressant, il y a eu 1500 emplois qui ont été créés, des dizaines de lignes créées, donc un secteur qui était de façon absurde fermé à la concurrence, donc ça, il l'a fait. Mais pour le reste, qu'est-ce qui reste de la loi Macron 1? Il reste une facilité d'installation pour les notaires, il reste quelques mesures sur le droit du travail. Donc finalement, le grand déverrouillage libéral, parce qu'il était affiché comme ça, de Emmanuel Macron, il n'a pas eu lieu.
Bon, alors en même temps, il faut rappeler que la loi Macron, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été promulguée en août dernier. Et effectivement, qu'est-ce qu'il en reste? Je suis allé voir sur le site du gouvernement pour voir quel était le bilan qui en était dressé. La dernière mise à jour, elle remonte au 13 avril, donc c'est extrêmement récent. Et voilà ce qu'on peut y lire. Donc depuis la promulgation de la loi, plus de 1300 emplois ont été créés dans le secteur du transport par autocar et au moins 1,5 million de passagers ont été transportés. Et mentionné également la réforme des professions réglementées du droit. Et c'est à peu près tout. Est-ce que ça veut dire qu'on peut résumer, Christophe Rameau, le bilan d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie au bilan de la loi qui porte son nom?
Bien pire que ça. Parce que le problème, c'est que la France va quand même très très mal. On a 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Donc en fait, ce gouvernement a totalement échoué sur ce qui devrait être son principal défi, le redressement productif du pays, les créations d'emplois, la transition énergétique, sur tous ces volets-là qui sont les deux volets essentiels. Il y a un échec complet. Alors pourquoi il y a un échec complet? En fait, dans tous les pays du monde, On vit dans des économies où il y a du marché, et il y a besoin de marché. De ce point de vue-là, le fait de déréglementer certaines professions, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais on vit aussi dans des économies où il y a du public. Et ce qu'on peut reprocher, du point de vue keynésien, qui est le mien, à Emmanuel Macron, c'est d'avoir totalement dévalorisé, alors qu'il est ministre, d'avoir totalement dévalorisé le rôle de l'État, le rôle de la dépense publique dans l'économie. Aujourd'hui, vous avez un très grand débat en Italie, en Allemagne, sur la politique de réduction des déficits est une politique totalement contre-productive. Il y a un très très gros débat. La France, dirigée par un gouvernement soi-disant socialiste, aujourd'hui est totalement absente de ce débat-là. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la France est aujourd'hui un boulet libéral dans le débat keynésien qui réémerge en Europe. C'est quand même un comble.
Ah, ça c'est intéressant, François-Xavier Bourmont. Quelle est la place de l'État dans la pensée d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un colbertiste comme pouvait l'être par exemple son prédécesseur Arnaud Montebourg, qui était quelqu'un d'extrêmement, on va dire, actif pour essayer justement de redresser tout l'appareil productif français, hein? Rappelons que son ministère s'appelait le ministère du redressement productif. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui considère que l'État a trop de place et qu'il faut laisser faire l'entreprise?
Non, non, il est plutôt colbertiste et d'ailleurs il a eu un...
Ça surprend Christophe Rabault, alors on va vous écouter.
Il a eu un très très gros bras de fer avec Carlos Ghosn, le patron de Renault, pour réaffirmer le rôle de l'État et que l'État puisse faire prévaloir ses droits de vote double au sein de Renault et pour pas laisser l'actionnaire japonais prendre la main sur Renault. Sur ce dossier-là, il était plutôt interventionniste et d'ailleurs il l'a payé au prix d'une inimitié assez profonde avec Carlos Ghosn, qui est reconnu comme un des grands patrons mondiaux, enfin qui a dépassé le cadre du patron français en fait.
Donc, si l'interventionniste, on peut quand même pas dire que c'est l'image qu'il renvoie quand même.
Non, parce que c'est toujours quelque chose qui est fait jamais vraiment exposé au grand public. Ce sont des dossiers compliqués. Faut vraiment se plonger dans la presse économique pour voir ça. C'est pas des choses qui font la une des journaux comme quand Emmanuel Macron fait une petite déclaration, une petite phrase. Ça a moins d'impact.
Vous avez beaucoup surpris Christophe Rabault en disant qu'il était colbertiste. Emmanuel Macron, est-ce que Thierry Fabre est aussi surpris?
Je vais essayer de les départager, puisqu'il ne faut pas caricaturer la pensée d'Emmanuel Macron, soit l'affreux libéral ou l'affreux interventionniste. En fait, il est les deux. Il a un côté extrêmement libéral qu'il affiche. Le libéralisme est de gauche, dit-il. Et donc là-dessus, il promeut flexibilité sans état d'âme. Mais effectivement, il intervient et il a une doctrine d'intervention qui, dans les affaires de l'État et notamment dans les entreprises publiques, il a dit par exemple, il y a le 24 avril 2015, sortons de la naïveté française qui voudrait un libéralisme offert qui n'existe nulle part ailleurs. C'est pas de gauche, ça. Et donc, ça, il le disait au niveau de l'intervention de l'État dans les entreprises publiques. Et donc, François-Xavier a tout à fait raison. C'est-à-dire que vis-à-vis de Ghosn, il y a eu un bras de fer. Il a été beaucoup plus interventionniste. À la limite, il a fait du Montebourg. Donc, on voit bien que c'est une pensée, en fait, assez nuancée. Il y a un libéralisme affiché, mais il y a aussi, du côté de l'État, de dire que l'État doit être stratège et ne doit pas être naïf.
Dans l'actualité récente, il y a par exemple la question d'EDF et le renflouement d'EDF. Est-ce qu'on peut y voir la patte d'Emmanuel Macron derrière ce renflouement, Thierry Fabre, à votre avis? Ou bien est-ce que c'est un renflouement qui s'est fait malgré Emmanuel Macron?
Non, Emmanuel Macron, sans état d'âme, il peut renflouer EDF. Il n'était pas tout à fait d'accord avec la solution qui a été choisie. Mais si vous voulez, le fait que l'État intervienne et recapitalise une entreprise publique, ça ne lui pose aucun problème. Simplement, il dit et il affiche clairement, j'ai une phrase qui me revient de lui sur l'État, les dépenses publiques ne rend pas forcément heureux. Ça veut dire qu'il dit que la France, qui est championne du monde derrière la Finlande des dépenses publiques, ça pose un vrai problème et qu'il faut diminuer les dépenses publiques. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut diminuer les dépenses publiques, mais être actif, notamment en matière industrielle, avec les entreprises publiques dont on dispose.
On pourrait parler de libéralisme colbertiste ou de libéral colbertiste, s'agissant d'Emmanuel Macron, Christophe Rameau.
Sur ce qui vient d'être dit, la dépense publique est égale à 57% du PIB, le rôle d'un ministre de l'économie. C'est de faire un rôle de pédagogie vis-à-vis des citoyens. C'est de leur faire comprendre immédiatement que dire que la dépense publique est équivalente à 57% du PIB, il faut que les Français, les Françaises sachent que ça ne signifie absolument pas qu'il reste que 43% pour le privé. Contrairement à tout ce que les éditorialistes libéraux véhiculent à longueur de journée. C'est totalement stupide. En fait, la dépense publique, c'est 1100 milliards, mais ce n'est pas une part du PIB. Donc, quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, on arrive à 200% du PIB. Vous voyez, ça laisse de la marge. Voilà quelque chose de pédagogique que devrait faire un ministre de l'économie.
Mais et qu'il ne fait pas.
Je ne suis même pas sûr. Non,
parce qu'il n'est pas d'accord avec ça.
Je ne suis même pas sûr qu'il en ait conscience de cette donnée chiffrée. Alors, un dernier point sur EDF. Sur EDF, ce qui est absolument, il y a un diable niché dans des détails. Mais enfin, si l'on peut parler de détails, il est prévu comme contrepartie de la recapitalisation que l'on fasse passer au privé, que l'on privatise le réseau d'électricité, qui est un monopole naturel. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, même les économistes néoclassiques, plutôt libéraux, reconnaissent que quand il y a des monopoles naturels, a priori, il est très important que le public soit là. On s'apprête à faire sur le réseau d'électricité, si jamais c'est fait, en 10 fois plus grand. La catastrophe qu'on a fait sur le réseau autoroutier. C'est-à-dire qu'on a confié, on a donné des rentes extravagantes. Parlons des rentes du privé. Hein, on a donné des rentes extravagantes au privé pour gagner quelques milliards à court terme. On en a perdu des dizaines à long terme.
Thierry Fabre.
Globalement, non, on peut, le cas EDF peut être discuté, mais je pense qu'il faut bien avoir en tête que Emmanuel Macron pousse un courant de la gauche qui est déjà ancien, qui était porté par un Dominique Strauss-Kahn, un courant qui s'affiche gauche libérale et un courant qui vient affronter la gauche de la gauche, donc porté par les frondeurs du PS, porté par des gens comme Attac, effectivement, qui sont totalement opposés à ce courant-là, et c'est vraiment deux mondes totalement opposés. Et on voit bien que la libéralisation dont parle Emmanuel Macron, pour lui, c'est un progrès social. C'est-à-dire que les rangs dont on parlait tout à l'heure, les accès privilégiés, le CDI qui est beaucoup trop, dit-il...
Et les rangs de la finance.
Attendez, laissez-moi terminer. Le CDI trop rigide qui fait que les jeunes ne peuvent pas entrer sur le marché du travail. Tout ça, pour lui, c'est une libéralisation, mais porteuse de progrès. Et ça se discute. C'est-à-dire que on voit bien les deux approches sont antinomiques, mais effectivement, est-ce que les jeunes exclus du marché du travail à cause d'un CDI rigide, est-ce que c'est un progrès ou pas? Donc, mais il faut bien avoir conscience que ils portent, en l'affichant beaucoup plus que d'autres, ce libéralisme de gauche que souvent à gauche on pratique honteusement.
François-Xavier Bourmeau, en lisant votre livre, je me faisais la réflexion, je me disais, finalement, on a presque l'impression qu'Emmanuel Macron était beaucoup plus influent lorsqu'il était dans l'ombre. Comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, où vous dites notamment parce que le secrétaire de l'époque avant Jean-Pierre Jouyet était quelqu'un qui ne s'occupait pas tellement des questions économiques, donc là il était très influent, et qu'il l'est peut-être devenu un peu moins depuis qu'il est ministre de l'économie.
Mais quand il était à l'Élysée, en fait, il avait accès direct au président de la République et donc aux décideurs ultimes. Quand il se retrouve à Bercy, il y a derrière le filtre du Parlement où la loi qu'il présente doit passer des heures de débat et affronter les arguments des frondeurs, les négociations sur les amendements. Ils y passent 3 mois quasiment non-stop, 24-24. Et ça, forcément, ça ralentit son action. Ça aussi l'édulcore un peu. Ça édulcore ses idées, si bien qu'au final, on va se retrouver avec une loi Macron qui est assez éloignée de ce que lui voulait faire au départ.
Mais il y a une forme de naïveté par rapport à ce qui est la réalité du monde politique.
Je pense que sur le Parlement, non, il n'a pas du tout, il a pas été naïf du tout. Il en a fait une épreuve d'entrée dans le monde politique. C'est-à-dire qu'il il a voulu réussir ce passage. Il n'avait jamais fait de politique. Il a voulu rendre une copie parfaite. C'est-à-dire qu'il a discuté, négocié pendant des heures et des heures avec chacun des députés.
Il faut ajouter qu'il y a une loi Macron 2 qui devait voir le jour.
Oui.
Il nous l'avait annoncé en grande pompe. Il a fait une conférence de presse en disant « Nouveau déverrouillage de l'économie ». Et cette loi Macron 2 n'a jamais vu le jour. Ça montre bien que... Non mais ça confirme ce que vous dites. C'est-à-dire Macron aux commandes de Bercy, c'est un épouvantail. Il fait peur à une partie de la gauche. Et donc du coup, la conséquence, c'est qu'on ne lui conflit plus la loi. On la donne à d'autres pour la porter au Parlement. Voilà, donc on voit bien que son action commence à s'étioler parce que justement il est en première ligne. Alors qu'effectivement à l'Élysée, il avait plus les manettes.
Ça aurait été la loi Macron 2 ou loi Noé, c'est-à-dire nouvelles opportunités économiques, où effectivement on retrouve un certain nombre de propositions qui sont disséminées, alors notamment dans la loi El Khomri sur le travail, notamment dans la loi numérique qui est portée par Axel Lemaire. Christophe Rameau, est-ce que vous, par rapport à cette déconvenue, parce que c'en est quand même une quand on est ministre et qu'on vous dit finalement votre projet de loi ne portera pas votre nom et c'est pas vous qui allez le porter au Parlement. Est-ce que vous y voyez un renversement de tendance au niveau de la politique qui est suivie par le gouvernement ou c'est simplement une façon de sanctionner un personnage mais pas une politique ?
Le monde libéral, c'est un monde de bataille des égaux. Hein, mais à la rigueur, cette bataille des égaux m'intéresse peu. Le contenu de la loi El Khomri est très
La bataille
clairement...
des égaux, je pense qu'elle est à peu près dans tous les mondes, non, pas seulement le monde libéral, si.
Je dois vous concéder cela.
Ouf,
bon, on a eu peur. Mais je pense qu'elle est quand même exacerbée dès lors qu'on a certaines représentations dans la tête. Si vous voulez, si on a comme représentation dans la tête l'idée que l'intérêt général n'a pas de consistance propre et que ce n'est qu'un jeu d'intérêt individuel, ça favorise autorise quand même certains types de comportements. Mais enfin, pour revenir à l'essentiel, la loi El Khomri porte très clairement une volonté de déréglementation, de laisser entendre que c'est en dérégulant le marché du travail qu'on va pouvoir créer des emplois, ce qui, de mon point de vue, est une hérésie complète et qui ne répond pas d'ailleurs aux soucis des entreprises. Hein. Il faut écouter les entreprises. Hein, les chefs d'entreprise, avec une régularité admirable, disent tous les mois que, à plus de 50%, que ce qui bloque, c'est leur carnet de commandes. Et il n'y en a que 15% qui disent que c'est d'abord des problèmes d'offres. Et dedans, il y a les problèmes de trésorerie, il y a les problèmes d'approvisionnement. Enfin, il y a tout. Hein. Il n'y a pas simplement le coût du travail. Donc, il faut écouter les chefs d'entreprise derrière, au-delà des rodomandades très dogmatiques hein, du MEDEF, auxquelles, malheureusement, ce gouvernement plie trop souvent.
Et en plus, alors, je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron aurait présenté, s'il l'avait porté, hein, la loi El Khomri telle qu'elle était présentée dans l'avant-projet, celui qui a mis tout le monde dans la rue. Parce que dans cette histoire, en fait, c'est Manuel Valls qui a essayé de le déborder sur sa droite, donc qui a encore tordu le texte dans un sens encore plus libéral pour apparaître comme le porteur de modernité.
On peut être pour ou contre Emmanuel Macron, il faut lui considérer une qualité, c'est qu'il est extrêmement pédagogue. Et effectivement, et cette loi, s'il l'avait portée, je pense que cette loi aurait un peu plus convaincu. Parce qu'effectivement, expliquer qu'alléger le droit du licenciement, ça favorise l'embauche, a priori, c'est contre-intuitif. Et lui sait très bien le faire, alors que ceux qui ont porté la loi, effectivement, n'ont pas su l'expliquer.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Emmanuel Macron est-il un bon ministre de l'économie? C'est la question que nous posons ce soir à François-Xavier Bourmeau, qui est grand reporter au Figaro et qui vient de signer un ouvrage intitulé « Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi » aux éditions de l'Archipel. Christophe Rameau, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, qui fait partie des économistes atterrés, et Thierry Fabre, rédacteur en chef adjoint au magazine Challenge. Il y a quelque chose qui m'intrigue énormément par rapport au ministre de l'économie aujourd'hui, c'est sa popularité à lui, alors que la politique économique du gouvernement est extrêmement impopulaire. Il y a deux sondages, alors on sait ce que valent les sondages, mais quand même qui sont, me semble-t-il, assez significatifs. Sondage très récent, hein. L'un c'est IFOP pour le site Atlantico, selon lequel 63% des personnes interrogées considèrent qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de compétent. Et pour les Échos, un sondage Odoxa, selon lequel, pour 87% des personnes interrogées, la politique économique qui est suivie par le gouvernement est mauvaise. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cette contradiction, Christophe Rameau ?
Écoutez, faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui adorent Macron. Hein, donc dans les sondages, quand on distingue la gauche et la droite, bon, c'est pas du tout la personne la plus populaire à gauche. Hein, c'est Martine Aubry, la personne la plus populaire à gauche. Donc ça fait ringard hein, de lire ça, mais c'est ainsi.
Mais il est considéré comme compétent, alors que la politique économique est considérée comme mauvaise. Donc il y a quelque chose qui.
Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le contenu de sa politique. Hein, je pense qu'il faut parier sur l'intelligence. Donc voilà, c'est le contenu de ça. Il y a une vraie cohérence, donc il faut lui reconnaître ça. Je lui ferai pas un procès en incohérence. Donc j'ai rien à dire sur sa personne, en quelque sorte. Elle a le mérite d'être cohérente. Et voilà. Donc, du point de vue de la politique, par contre, je pense que vraiment le gros reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'on est dans un pays qui est quand même dévasté par la crise. On a besoin d'un nouvel horizon. Ça suppose de la coopération. Il y a des conflits, mais ça suppose de la coopération. Or, on a un ministre qui a systématiquement, il s'est attaqué à tout le monde, aux chômeurs. Sur le thème, il faut qu'il se bouge, aux fonctionnaires, aux travailleurs du privé. Tout le monde y est passé quelque part, sauf les banquiers. Hein, c'est-à-dire quand on parle de rente quand même, hein, ça fait quand même. Enfin, maintenant il y a des rapports qui s'accumulent partout dans le monde sur le thème ce qui plombe l'économie mondiale, qui crée des inégalités, qui plombe y compris la consommation et donc la croissance. C'est cette couche extrêmement minoritaire de la population qui a gagné aux 40 dernières piteuses, c'est-à-dire les hauts cadres de la finance, les hauts cadres des firmes multinationales. Là, ces rentiers-là. Vous émouviez en début d'émission, si je puis me permettre, du fait qu'on puisse être taxé à 75% au-delà d'un million. Je dis bien, un million de revenus, on prend 75% au-delà du million. Vous vous rendez compte, 100 000 euros par mois quasiment, on prend 75% sur le 100 000 qui dépasse. Enfin, sincèrement, on a les cris d'injustice que l'on cherche. Enfin,
c'est quand même un coup. Au bout du compte, cette mesure, Hollande n'a jamais réussi à la mettre en œuvre.
Oui, mais ça c'est bon. Mais elle était légitime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même si ça suffit pas, mais enfin,
elle était difficilement dire qu'elle était légitime pendant la campagne présidentielle pour parler aux électeurs de Mélenchon.
Si les Français aiment bien Macron, je pense que c'est lié au ras-le-bol et au rejet de l'ensemble des politiques traditionnelles. D'abord, c'est-à-dire que toutes les recettes anti-chômage ont échoué. Donc, au-delà des discours très idéologiques des uns et des autres, il y a un discours un peu neuf d'Emmanuel Macron, qui justement est un transgresseur pour sa famille.
Mais c'est Pompidou, c'est Giscard. C'est rien de nouveau. C'est le libéralisme du 19e même, Macron.
C'est enfin,
L'offre crée la demande. Enfin, du point de vue de la pensée économique, c'est une régression intellectuelle. Enfin.
Sur beaucoup de points, il ose dire des choses que des électeurs de droite et de gauche pensent, y compris à gauche. Hein. C'est-à-dire que, typiquement, ce qu'il a sorti sur le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, c'est un truc auquel on ne touche pas. Si on le touche, on est un affreux libéral. Mais lui, il a mis les pieds dans le plat. Il a dit qu'il fallait le réformer, que ça avait plein d'effets pervers. C'est un discours qui commence à porter les 35 heures, le totem à gauche qui a créé, paraît-il, 350 000 emplois.
Ben oui, bon, ça les a créés.
Oui, oui.
2 millions d'emplois créés.
L'étude est extrêmement contestée. Donc, Il arrive et justement, des économistes à gauche disent, mais non, on a fait une erreur. Donc, il faut aller en sens inverse. Macron le dit brutalement. Ça plaît aux Français parce que c'est lié au ras-le-bol des discours traditionnels, un peu.
Il parle aussi de l'ISF, l'impôt sur la fortune, il parle aussi des fonds de pension. Est-ce que ça fait aujourd'hui partie d'une véritable stratégie, c'est-à-dire de distiller, comme ça régulièrement, François-Xavier Bourmeau, des idées pour montrer que lui, il n'hésite pas, peut-être contrairement à d'autres à gauche, à bousculer un petit peu cette majorité.
Oui, mais alors là aussi, il marche dans les pas de beaucoup de ses prédécesseurs, à commencer par Manuel Valls, qui lui aussi a construit sa popularité sur ses transgressions par rapport aux dogmes du Parti Socialiste. Autant au début, quand il arrive, il a commis des vraies maladresses, qui en étaient sur les illettrés, notamment quand il prononce ce mot et qu'il s'en excuse après.
Il parle des ouvrières de l'abattoir, c'est GAD, je crois, cet abattoir, oui. Voilà, en disant le problème, c'est que ces personnes-là, si elles se retrouvent au chômage, elles vont avoir du mal à trouver un nouvel emploi, parce que déjà, elles n'ont pas le permis de conduire, et en plus, un certain nombre d'entre elles sont des personnes illettrées. Et ce qui a fait beaucoup de bruit après. Il s'est excusé d'ailleurs après à l'Assemblée nationale.
À l'Assemblée nationale, oui, et puis il a fait d'autres maladresses sur il faut des jeunes qui ont envie de devenir milliardaires ou millionnaires.
Ça, c'est pas une maladresse, il l'assume. Hein. Ça fait du buzz, mais ça révèle le personnage. Enrichissez-vous.
Oui, mais où ça a quand même mis le feu au PS. Enfin, ça a un peu marqué le personnage. Mais ces maladresses-là, petit à petit, il va les transformer en armes politiques. Pour justement imposer des idées, les faire rentrer dans en débat et faire réfléchir par les socialistes. Autant de sujets qui sont des tabous absolus, des totems auxquels on ne touche pas. Et ces jalons-là qui posent petit à petit, c'est aussi là-dessus qu'il construit sa popularité. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les Français ne sont pas gré de son bilan, si elles ne tiennent pas rigueur de son bilan, qui est somme toute assez faible, en fait, lui apparaît un peu plus distancié, moins responsable du bilan qu'un François Hollande, par exemple. Donc, ces deux éléments combinés, le fait qu'il transgresse d'un côté et qu'il n'est pas tout à fait responsable parce qu'on l'a un peu empêché d'aller au bout de sa politique de l'autre, font qu'il apparaît comme une personnalité politique qui va pouvoir, ou qui est en tout cas porteuse de promesses de redressement.
Sur la question du bilan, vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Rameau, le haut niveau du chômage. Alors, on a appris aujourd'hui, il y a une quarantaine de minutes, que s'agissant des chiffres du mois de mars, il y avait une forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, puisque ça a reculé de 60 000 personnes, c'est-à-dire moins 1,7%. Ça reste quand même à un niveau évidemment extrêmement élevé. Est-ce que le ministre de l'économie, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, est redevable, disons, des résultats en termes de chômage?
Tout à fait. Tout à fait. De ce point de vue-là, je pense que Emmanuel Macron, à l'instar de son gouvernement, du gouvernement auquel il participe, et il accable les chefs d'entreprise. Ça peut vous paraître paradoxal qu'un économiste atterré dise ça. Emmanuel Macron accable les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il laisse entendre...
Parce que les chefs d'entreprise ont plutôt l'air de bien l'aimer, non?
Oui, mais il laisse entendre que ce sont les chefs d'entreprise qui déterminent le niveau global de l'emploi, qui ont cette responsabilité. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui détermine le niveau global de l'emploi, c'est le niveau de la demande globale. Parce qu'un chef d'entreprise, il embauche s'il en a besoin pour produire. Vous pouvez toujours baisser le coût du travail. S'il n'en a pas besoin pour produire, il n'embauchera pas. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est le gouvernement qui est responsable de la politique économique. Et de ce point de vue-là, on peut faire une triste comparaison pour Hollande. Pour Hollande, Macron, Valls. C'est Hollande 0, Jospin 1. Sous Jospin, il y a eu des petites inflexions keynésiennes pas suffisantes et qui n'ont pas été assumées et qui ont conduit à la débâcle de 2002. Mais enfin, quand même, il y a eu des inflexions keynésiennes. On avait baissé la TVA d'un point, Hollande l'a augmenté. On avait augmenté un certain nombre de prestations sociales. On a fait les 35 heures sans perte de salaire. 2 millions d'emplois créés. 600 000 chômeurs de moins. Le bilan de Hollande, au-delà des chiffres conjoncturels à la hausse et à la baisse, la tendance, vous voyez ce que je veux dire, le bilan de Hollande, ça va être de l'ordre de 600 000 chômeurs en plus. Voilà. Et donc là, c'est accablant. Et qu'on me dise pas que c'était le contexte international. À l'époque, la France a créé deux fois plus d'emplois qu'en Allemagne. On a eu plus de croissance, plus d'emplois créés grâce aux 35 heures. Pas simplement les 35 heures, d'ailleurs. C'est parce qu'on a fait des politiques keynésiennes qui ont marché, qui n'ont pas été assumées par Jospin. Et de ce point de vue-là, la faillite de Jospin, si vous voulez, Jospin, il termine sur un discours social-libéral. Ce qui est terrible avec Hollande, c'est qu'il commence d'emblée comme ça. Et ça se termine par une catastrophe.
Bon, Thierry Fabre, c'est vrai que quand on écoute Emmanuel Macron, on a davantage l'impression que son action vise à permettre finalement à tout un chacun de devenir entrepreneur plutôt que de créer de l'activité qui permette aux entreprises d'embaucher, ce qui est évidemment deux approches de l'économie très différentes.
Christophe Rameau a fait une peinture un peu idyllique des années Jospin. Les années Jospin, ça se terminait par les 35 heures qui ont quand même alourdi le coût du travail. Et ensuite, la décennie 2000, y compris les gens de gauche le disent, ça a fait qu'il y a eu des pertes de compétitivité, de parts de marché de l'industrie française. On a détruit des dizaines de milliers d'emplois.
C'est pas lié à la crise de 2008
non. Pas seulement. La France a totalement décroché par rapport à l'Allemagne. Donc la situation en 2012, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise sur le plan de la compétitivité. Il y a un rapport d'un homme de gauche qui s'appelle M. Gallois et qui dit que justement pour redresser la compétitivité, il faut alléger massivement.
Mais ça, on l'a fait.
Bon, donc ça veut dire que François Hollande l'a fait. Et effectivement, on n'a rien vu. On n'a rien vu pendant des années parce qu'il y a un problème de confiance dans les gouvernants, mais effectivement, c'est extrêmement lent à se diffuser. On voit aujourd'hui quand même des petits fruits. Le président de la République a dit ça va mieux, mais on peut lui dire oui, effectivement, ça va un peu mieux. Les marges des entreprises se sont redressées, l'investissement est en train de repartir, l'emploi, le chômage baisse, il y a des créations, il y a 150 000 créations d'emplois prévues cette année. Ça veut dire, vous allez voir, on se rendra niveau en 6 mois, et dans 6 mois, on pourra dire, ah tiens, est-ce que la politique de l'offre porte enfin ses fruits? Et je pense que c'est ce qui va se passer. Sauf que ça arrive tellement tard qu'évidemment, c'est pas ça qui va redresser François Hollande dans les sondages. Mais en tout cas, l'effet de cette politique, les milliards dépensés, notamment pour la politique de l'offre, ce
milliards.
N'est pas parti totalement en fumée. On en voit quand même quelques résultats.
François-Xavier Bourmeau, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un donc qui a des idées, c'est quelqu'un aussi qui a un réseau et qui, quand il arrive à l'Élysée encore davantage à Bercy, arrive aussi avec un certain nombre d'amis plutôt bien placés dans la finance, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose dont il se sert aujourd'hui ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut au contraire être problématique quand on devient ministre de l'économie?
C'est quelqu'un qui a un attachement viscéral à sa liberté. Donc le mettre sous la coupe des réseaux, effectivement, il a des amitiés alors dans l'inspection des finances, chez les chefs d'entreprise. Mais lui, son obsession, c'est de rester libre. Alors à partir de là, le voir se mettre, dépendre de tel ou tel réseau, on a un peu de mal à l'imaginer, même si il a effectivement des amitiés. Mais tel que je l'ai vu, en tout cas, je n'imagine pas ça.
Christophe Rameau.
Écoutez, si je me souviens bien, je parle sous réserve, sous votre contrôle, mais il avait introduit la banque Rothschild, notamment par Alain Minc. C'est tout un symbole. Il arrive à engranger 3 millions d'euros en quelques mois, à peine 4 ans à la banque Rothschild. Enfin, il y a quelque chose d'indécent là. Il y a quelque chose du.
Le passage sur la banque Rothschild est intéressant parce qu'il va gagner beaucoup d'argent là-bas.
Non, mais si je me permets, le sens qu'on peut lui donner, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on considère qu'un monde où la finance a le pouvoir, est-ce que ce monde-là marche bien, est-ce qu'il le faut? Les libéraux le soutiennent, ils l'ont soutenu pendant des années. Très bien, c'est une cohérence. Ce n'est pas la mienne, et j'avais cru comprendre que quand on était à gauche, et d'ailleurs, mais à coup de pas, ça vaut aussi pour une bonne partie de la droite, je l'espère. Hein, ce clivage-là traverse la gauche et la droite, d'accord? Mais j'ai le sentiment que pour la très grande majorité des Français, il y a le sentiment que ça ne doit pas être à la finance. La finance est très utile, elle est tellement utile d'ailleurs qu'il faut la contrôler, sinon ça la conduit à des catastrophes. Et ce qui n'a pas été fait notamment avec ce gouvernement-là, c'est de mettre au pas la finance. La France a freiné des quatre fers. Par rapport aux institutions européennes, sur la domestication de la finance, c'est quand même un comble. Hein, que ça soit Juncker qui parfois aille plus loin que Moscovici ou que Hollande ou que Macron ensuite, sur la domestication de la finance, c'est quand même un comble.
Alors, il a effectivement gagné beaucoup d'argent chez Rothschild en signant des gros deals, dont un en vendant une filiale de Nestlé. Mais c'est pas un braquage qu'il a fait.
Ah bah, pas du tout.
Il a pas braqué le monde.
C'est en col blanc, on est bien d'accord.
C'est la règle du jeu.
Enfin, oui, c'est la règle. Les règles de la finance libéralisée. Oui.
Mais dans cette histoire de Rothschild, alors j'insiste sur un point, c'est que il va chez Rothschild pour gagner de l'argent, mais cet argent lui sert à acheter son indépendance, en fait. Quand il va gagner beaucoup d'argent, il le fait dans l'optique de ne pas avoir plus tard à dépendre d'un appareil politique.
Et notamment les élections. Ouais, il ne prendra plus de risques. C'est pas beau, ça, dis donc.
Non,
hein.
De ne pas avoir à dépendre d'un appareil politique qui va lui imposer
et pas des électeurs
à laquelle il n'adhère pas.
Et pas des électeurs.
Continuer à parler librement. Les électeurs, je pense qu'à un moment...
Il a exprimé son mépris pour les élections, souvenez-vous. Je ne sais pas si c'est dans votre livre, il a exprimé son profond mépris pour les élections.
Sur le cursus, il remet en cause le cursus traditionnel,
quand même grave,
le cursus
ça.
De l'élu traditionnel.
C'est quand même très grave, tout se tient, décidément.
Je ne suis pas persuadé qu'il ne se confronte pas un jour au scrutin universel.
Il faut arrêter les caricatures, c'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on est banquier qu'on doit finir en prison.
Ah, mais je n'ai jamais dit
bon,
ça.
D'accord,
voyons,
les banquiers financent l'économie.
Je suis pour qu'il y ait des banquiers au service de l'intérêt général.
Les finances financent l'économie. Il y a eu plein de mesures depuis la crise de 2008, quand même de domestication de la finance, comme vous dites, même si c'est peut-être insuffisant. Emmanuel Macron, il a été banquier, mais justement, si les gens l'apprécient autant, c'est effectivement, comme vous disiez, le prix de la liberté. Il peut se lancer en politique sans avoir besoin de ça pour...
Sans avoir besoin de passer devant les électeurs.
Non, pas du tout.
C'est beau.
Non, pour caricaturer sa pensée, il a dit simplement qu'il ne voulait pas de cursus classique d'apparatchik. Ce n'est pas la même chose.
L'apparatchik, c'est passer devant les électeurs.
Non,
il
n'avait pas besoin de gravir tous les étages du PS pour faire une carrière politique. Il a un côté... novateur, c'est-à-dire on lui met facilement une étiquette à la gauche de la gauche, non, c'est un banquier donc on l'écarte. Mais si les Français l'apprécient autant, c'est qu'il y a une nouveauté et cette nouveauté, essayez de la regarder en face.
C'est pas parce qu'il a été banquier d'ailleurs, banquier d'affaires, que tous les banquiers d'affaires l'apprécient. Je voudrais juste vous citer un extrait d'une tribune publiée aujourd'hui dans Le Figaro, votre journal François-Xavier Bourmeux, qui est signé par l'ancien directeur général du groupe Figaro, qui est lui aussi banquier d'affaires, c'est Philippe Villain, et qui dit ceci, il fait justement le bilan d'Emmanuel Macron. Parce qu'il dit, la France est atteinte d'hallucinations collectives à son sujet. Et il dit, son réel bilan est un vide sidéral. Il n'a rien fait pour infléchir la politique européenne défavorable à la France. Il n'appelle pas à la réduction des dépenses publiques. Il n'a pas attaqué la fiscalité française qui tue notre économie. Il ne fait rien pour les entreprises publiques. Alors, ce n'est pas exactement le bilan que vous dressez, vous, Christophe Rameau. Mais on voit que, il est apprécié, mais pas forcément partout non plus.
Oui, non, mais il y a des libéraux qui considèrent qu'il y a... Non, mais ça, c'est de bonne guerre. Bon, mais pour revenir, c'est vrai que, à écouter ce qui a été dit précédemment, je fais partie de la vieille école. Moi, je considère qu'un homme politique, il doit passer d'abord et avant tout par la sanction électorale. C'est ça le cursus, si on appelle ça l'apparatchik. Eh bien, on dévalorise le politique et c'est vraiment pas ça. Mais pour revenir sur les questions économiques, contrairement à ce qui a été dit là dans la tribune du Figaro, Emmanuel Macron a profondément dévalorisé le rôle de l'État. Le rôle de la dépense publique, or on sait maintenant, y compris, 2008, faillite du libéralisme. On fait des relances keynésiennes. 2010 en Europe, on reprend un tournant néolibéral contre l'avis des États-Unis. Je défends le point de vue américain contre le point... Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas un afro-gauchiste de ce point de vue-là. Bon, eh bien, on fait le tournant néolibéral. C'est la ligne Macron qui l'emporte en quelque sorte. Ça conduit à la catastrophe. Et aujourd'hui en Europe, cette politique est remise en cause. Et la France est à la traîne. Non, elle freine dans cette remise en cause parce que c'est le logiciel, finalement, de Hollande, Macron, Valls qui est remis en cause.
Un dernier mot pour conclure, François-Xavier Bourmeau.
Oui, non, par rapport à la tribune, effectivement, les rivalités de banquiers d'affaires, c'est terrible. Emmanuel Macron est aussi très opposé à Mathieu Pigas, qui a rejoint Arnaud Montebourg. Donc, on retrouve des banquiers d'affaires aussi bien sur la gauche du PS que sur la droite du PS.
Comme souvent, d'ailleurs, les rivalités se retrouvent dans le même milieu. Hein.
Un mot qu'on n'a pas dit, c'est le Macron international qui est intéressant. D'abord, il porte la France à l'étranger, notamment au Royaume-Uni. Je l'ai suivi, c'est assez impressionnant. Il est il la défend bien, il est fluent.
Et il est en Allemagne aujourd'hui, à Hanovre, au sommet de l'industrie.
Il a beaucoup regardé les expériences étrangères et je pense que c'est vraiment intéressant, plutôt que de rejeter en bloc les expériences néolibérales, comme vous dites, de voir les pays qui, en Europe, ont réussi à avoir un chômage deux fois moins élevé que le nôtre. Allemagne, Autriche, etc., avec des recettes qualifiées de libérales, certes, mais qui ont marché. Donc, il a un côté très ouvert sur ce qui passe autour de nous et qui alimente sa boîte à idées.
Il était aujourd'hui donc à Hanovre, au sommet, au Forum mondial, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, de l'industrie en Allemagne, pour promouvoir l'excellence industrielle française. Et à cette occasion a été lancé un nouveau label, Creative Industry, pour faire un petit peu le pendant de la French Tech, qui est vraiment le bébé, on pourrait dire, d'Emmanuel Macron. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. À Thierry Fabre, Christophe Rameau et François-Xavier Bourmeau. Discussion que vous pouvez poursuivre sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Hugo Florent, Fanny Richer, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédéric. Demain, nous nous intéresserons à la question des routes migratoires. Les routes migratoires peuvent-elles faire autre chose que bouger ? Tout de suite, c'est Ping Pong. Bonsoir, Mathilde et Martin.